différence.
Il est 15h04, c'est l'heure de retrouver Daniel Mermet pour la Bastille J'y suis.
Moi, je téléphone aujourd'hui pour dire que vraiment les journalistes sont des nuls, hein, ils savent même pas se défendre. Voilà que c'est de leur faute si les Français sont mécontents. C'est eux qui alimentent la polémique. C'est eux qui font dire aux Français qu'on est plus pauvre ou moins riche, comme vous voulez, qu'avant l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est vous qui nous faites dire qu'il tient pas ses promesses. Même les gars de l'UMP qui ont leurs cartes dans leur portefeuille, ils en sont là, et c'est de votre faute, et vous vous défendez pas. Qu'est-ce que vous foutez? Allez, réveillez-vous un peu. Hein? C'était Claude en Seine-et-Marne.
Je vous appelais juste pour vous dire que, d'après ce que j'ai lu, le gouvernement japonais qui a changé pour la première fois depuis 60 ans, est donc passé d'un gouvernement de droite à un gouvernement de centre-gauche, bon, modem. Première décision, ils ont arrêté la privatisation de la poste, ils ont suspendu ça au Japon. Donc voilà, comme quoi c'est possible. Seul truc, c'est que on nous dit partout que l'économie de dans 10 ans, ce sera... Évidemment, tout fait par Internet, tout fait par correspondance et tout, sauf que si on supprime tous les services postaux, je ne sais pas comment Internet fera pour vivre, puisqu'Internet n'est pas un magasin de proximité. Donc, je pense qu'ils ont déjà la réponse à ça, mais je crois qu'ils y réfléchissent même pas. Je crois qu'on vit depuis 20 ans dans l'ère du capitalisme nihiliste, celui qui détruit les moyens, qui scie la branche sur laquelle elle est assise, qui tue la poule aux œufs d'or, qui bouffe tous les moyens... de production possible, qui presse le citron jusqu'à plus soif, jusqu'à tuer le citronnier. Voilà, c'est l'ère du capitalisme nihiliste. On détruit la poste tout en disant que le commerce de dans 10 ans sera tout par correspondance et on détruit les postes à travers le monde. Voilà, c'était mon message. Bah, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.
Oui, bonjour Daniel, c'est Patricia de Caen. Je viens d'entendre aux informations sur France Inter ce matin que, ça y est, Éric Besson va affréter ce soir un avion en direction de Kaboul. La question que je me posais, c'est que est-ce qu'il y aura un pilote dans l'avion? Est-ce qu'il y aura un pilote qui n'aura pas la honte de conduire cet avion de la honte? Voilà, je m'interroge là-dessus. Et puis, je voulais dire aussi que je ne me reconnaissais pas dans cette France-là. Le maire de notre commune nous a demandé de chanter la Marseillaise en novembre au Monument aux Morts. Il nous a demandé ça à notre chorale. Eh bien, moi, je ne me reconnais pas dans cette France qui bafoue les droits de l'homme. Donc, je n'irai pas chanter la Marseillaise. Salut Daniel et merci pour tes émissions.
Je viens d'apprendre le décès d'un collègue de boulot qui s'appelle Vincent. Bon, il était en pleine déprime parce qu'il avait un divorce difficile. Et bah, quand son patron lui a appris que la société fermait la semaine dernière, eh bien, on l'a retrouvé pendu chez lui samedi dernier. Voilà. Voilà, il n'y a pas que, hélas, il n'y a pas que les fonctionnaires, mais le privé aussi est fortement touché depuis de nombreuses années. J'imagine par la difficulté de travailler dans cette concurrence à outrance et cette compétition exacerbée. J'imagine ce que certains fonctionnaires qui doivent travailler avec les méthodes du privé en prennent plein la gueule, quoi, en ce moment. Ça rassure personne. Ça rassure personne parce que on sait que lorsqu'on a une fonction publique forte et puissante, eh bien le privé va bien aussi, et fort et puissant également. On l'a vu pendant les Trente Glorieuses. Et puis, depuis une trentaine d'années, bah, le privé est en train de s'écrouler, et la fonction publique s'écroule aussi actuellement. L'un ne va pas sans l'autre, il faut que tous les deux soient forts et puissants. Voilà, à bientôt Daniel, et continue tes émissions.
Salut Daniel, alors ça y est, c'est parti, la grande campagne de vaccination contre le virus du H1N1 est lancée. Donc nous avons eu les beaux sujets de complaisance dans les journaux hier soir, surtout celui de France 2 qui était absolument magnifique. Vraiment un bon petit soldat du journalisme, comme dirait François Ruffin, avec des blouses blanches qui étaient toutes contentes, qui criaient « Ouais, le virus est arrivé !» Enfin, j'ai cru que j'étais sur les guignols, non, j'étais bien sur France 2, c'était ridicule à souhait. Évidemment, la veille, il y avait un bébé qui était décédé de ce virus. Bon, il y avait d'énormes complications cardiaques, mais ça, ça reste dans le texte. Dans le titre, c'est « Un bébé est mort du virus ». Donc, on va tous être priés d'aller se faire vacciner. C'est un geste citoyen, c'est pas encore obligatoire, mais ça va le devenir. Et je voudrais donner une petite info. Sur le site du Poste, il existe une déclaration d'opposition au vaccin. Une lettre type à envoyer à tous les chefs d'établissement pour que les parents les parents qui ne souhaitent pas que leurs enfants soient vaccinés de force, parce que ce qui va certainement arriver à un moment donné, votre gosse rentrera le soir en disant « Maman, j'ai été vacciné ». Donc c'est envoyé en lettre commandée à votre chef d'établissement en disant que vous refusez, si vous êtes concerné, vous sentez concerné, que votre enfant soit vacciné. Voilà. Et je pense qu'on va être nombreux à envoyer cette lettre. Et Rosine, qu'est-ce qu'elle va faire des 94 millions de doses? Je lui propose 47 dans le bras gauche, 47 millions dans le bras droit, et les 20 millions de doses en option, j'ai ma petite idée où elle peut se les mettre. Mais à mon avis, voilà. Allez, bye et bonne journée. Salut.
Salut Daniel, salut à tous. Je reviens sur Nicolas Hulot. Oh là là, bah oui, il faut y revenir. Et je vous invite tous à écouter ou réécouter le Masque et la Plume d'hier soir, puisqu'ils ont présenté ce film et ils l'ont critiqué. Et cette critique est absolument un régal. Donc profitez-en, puisque je crois qu'on peut podcaster tout ça encore toute la semaine. Réécouter Le Masque et la Plume sur la critique du film de Nicolas Hulot, c'est une réjouissance. Voilà, allez, à plus.
Oui, c'est Bruno, là, j'appelle d'Auvergne. J'écoute Daniel Mermet depuis des années, et cet après-midi, il m'a un petit peu énervé en critiquant Nicolas Hulot, toujours avec son espèce de morgue ironique. Ça m'a pas plu, parce que Nicolas Hulot, il a beau avoir ses défauts, je pense qu'il fait quelque chose de pas inutile. Il essaye de résister à sa manière, même s'il profite un peu du système et qu'il palpe un peu du blé au passage. Enfin voilà, Daniel, il ferait peut-être mieux de venir dans le domaine dans lequel je suis, par exemple le transport, où aussi bien les gros camions, les jolis camions que les petites fourgonnettes, maintenant c'est un système, c'est-à-dire que des sous-traitants, des personnes qui sont à leur compte, qui travaillent pour des donneurs d'ordre, qui contournent totalement les contrats de travail, c'est-à-dire que... on est payé moins que le SMIC, on n'est pas payé en horaire de nuit, on n'a pas de congé, ils peuvent nous virer quand ils veulent, comme ils veulent, enfin voilà, c'est pire que du temps de cela. Donc voilà, Daniel Mermet, si tu veux te rendre utile, tu peux venir faire un tour du côté du transport. Salut.
Ben c'est une très bonne idée, tiens, d'aller faire un tour du côté du transport, mais pour ça, camarade routier, non, moi, auditeur, il voudrait nous laisser un numéro de téléphone sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Mais c'est une excellente idée. Alors, peut-être, par contre, concernant Nicolas Hulot, il y aura peut-être un petit peu de déception chez certains de nos auditeurs d'ici à 16h, mais je vous le rappelle, j'ai fait cet exploit, moi aussi, Nicolas Hulot, qui fait des exploits extraordinaires, moi je suis allé voir son film. Et ça, je peux vous dire que c'est un exploit dont je suis pas peu fier, et dont il va être question jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, le 9e Café Repère à Savilly-sur-Orge se tiendra au restaurant Le Jasmin, sur le parking près de la gare, le mercredi 21 octobre à 20h30, sur le thème « Gestes écolo au quotidien ». Suite.
Salut Daniel, salut tout le monde. Le sommet de Copenhague sur le climat approche. Tout le monde en parle, mais nous ne sommes pas assez nombreux à dire que pour sauver le climat, il faudra radicalement transformer notre modèle de société en agissant à la fois pour plus de justice sociale et pour l'efficacité écologique. C'est pourquoi plus de 40 organisations, des syndicats, des ONG environnementales, des associations, des partis politiques comme ATTAC, les Amis de la Terre, la FSU, Solidaires, sont réunis dans le collectif Urgence climatique, justice sociale et vous invitent ce samedi à Paris, à l'espace Reuilly, 21 rue Hénard dans le 12e, pour 6 heures pour le climat et la justice sociale. Au programme, à partir de 15h, des débats sur la taxe carbone et la fiscalité écologique, sur le mode de développement, croissance, décroissance, et sur l'état des négociations et des mobilisations en vue de Copenhague. À partir de 19h, il y aura la projection de The Age of Stupid, dont c'est la journée internationale de sortie. Vous aurez plus d'infos sur http://climatjusticetoutattaché.org. À samedi.
Bonjour à toutes et à tous, et salut à toi Daniel. Nouveau repère d'Albertville, donc le rendez-vous sera mercredi 21 octobre. Vous étiez déjà nombreux la première fois en septembre, et c'est avec beaucoup d'impatience que nous vous attendons ce mercredi. Donc le thème de débat retenu pour cette soirée sera la souffrance au travail. et c'est Thierry Braillon de la Mutuelle Souffrance au Travail qui animera les débats. Lors de cette soirée, nous vous présenterons la liste des thèmes ainsi que les dates pour les prochains mois. Le Café Repère d'Albertville, c'est toujours au Petit Bar, rue Joseph Meunier, tous les troisièmes mercredis du mois à partir de 19h. Isabelle, Sandra et moi-même, nous vous y attendons nombreux. À mercredi donc.
On a reçu beaucoup de messages aussi sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, concernant l'émission de ce matin, à laquelle était convié Laurent Wauquiez au sujet de la grève à Pôle emploi, où plus du tiers des 45 000 salariés de Pôle emploi étaient en grève, selon l'AFP. Beaucoup de questions n'ont pas pu être posées, et puis il y a pas mal d'auditeurs qui n'ont pas été entièrement convaincus, c'est incroyable, par les réponses du ministre aussi. Antoine Chao est-il allé pas loin de chez lui, dans le 20e arrondissement, à la maison du syndicat, où il a rencontré quelques mécontents, quoi, des gens qui n'étaient pas contents du tout.
Alors là, on est devant la maison des syndicats. On est devant la maison des syndicats dans le 20e. Et donc, c'est une AG qui va démarrer, une AG
des grévistes,
des grévistes, hein. Oui. De Pôle emploi, c'est ça ?
Tout à fait, oui, tous les grévistes de Pôle emploi de l'Île-de-France. Voilà, donc cette grève aujourd'hui, effectivement, c'est sur les conditions de travail.
Ça veut dire que le ministre ne vous a pas rassuré ce matin avec ses paroles rassurantes sur cette même antenne ?
Il a surtout beaucoup menti ce matin, le ministre. C'est surtout ça. On a entendu dire que les portefeuilles, effectivement, étaient entre 30 et 50, alors qu'une collègue de Pôle emploi lui disait qu'elle en avait 73. Et en plus, il s'est senti obligé de demander si c'était actif. Je pense que pour toutes les personnes qui écoutaient ce matin M. Wauquiez, sa question ne voulait absolument rien dire. Par contre, il n'a pas du tout répondu sur effectivement le nombre qu'elle avait dans son portefeuille. Et puis je voudrais aussi rajouter, ce matin j'ai entendu M. Wauquiez parler de 90 000 personnes sur Pôle emploi, et on aimerait bien savoir d'où il sort ce chiffre-là. Voilà.
Vous estimez à combien ?
45 000.
D'agents, d'employés ?
Oui, tout à fait. Donc 90 000, il double chiffre, et on se demande de qui il parle.
Vous êtes syndicaliste ?
Oui, nous sommes syndicalistes à Solidaire Sud Emploi.
Alors là, il y a l'AG qui va démarrer. Quel est l'ordre du jour ?
Bah, c'est que déjà laisser parler un peu les collègues sur leurs conditions de travail, leur proposer peut-être de reconduire la grève ou de faire un mouvement plus dur. Voilà ce qui va se débattre, je pense, ce matin.
Hein ? Alors toujours maison des syndicats, alors vous, c'est casquette CFDT. Alors vous avez pensé quoi de l'intervention du ministre ce matin ?
On peut dire que c'est un très bon communicant, il communique. Voilà, c'est tout.
Moi je trouve que j'ai entendu effectivement ce matin toute l'interview de Wauquiez. J'ai été un petit peu étonné, vivant de l'intérieur, parce qu'il lance des chiffres comme 400 réunions avec les organisations syndicales, 3000 heures passées avec les organisations syndicales. Bon, c'est peut-être un volume important. Pour autant, le désir de négociation n'est pas là, arguant que la plateforme revendicative, qui était pourtant minimale, était trop importante.
Alors qu'est-ce qui a été décidé ?
La direction générale de Pôle emploi.
D'accord. C'est juste à deux pas là.
Oui, c'est là. Mais là.
Alors là, c'est l'occupation de la direction générale.
Ouais, ce qu'on veut, c'est que Charpie descende. C'était l'ex-directeur version ANPE et il a été promu directeur de Pôle emploi. Avec
Bourgogne, 46%, Bretagne, 42%, toujours chiffre DG. Donc vous rajoutez un delta d'à peu près 10. Donc ce qui veut dire que la mobilisation a été quand même réussie, et ça on peut tous s'en satisfaire. Et pensez que le mouvement intersyndical, c'est ce qu'il y a de mieux dans un contexte comme celui-ci. C'est 50%, c'est-à-dire que c'est une grève de très haut niveau. Et ça atteste à quel point, effectivement, les salariés sont dans un état de difficulté très importante. Normalement, Wauquiez et Charpie devraient entendre ce message par rapport donc au personnel de Pôle emploi qui est en souffrance. On va le savoir, effectivement, puisque les délégations donc intersyndicales vont être reçues par Wauquiez et Charpie qui vont être présents. Et on va voir s'ils ont entendu effectivement le message Il y a quelqu'un de la direction qui est là, le personnel a lui dire des choses, monsieur le responsable, donc c'est le moment de lui dire les choses maintenant. Personne en a marre. Écoutez le personnel maintenant.
120 demandeurs d'emploi dans les portefeuilles et non 300. 200. Pas 10 minutes d'entretien téléphonique, 24 entretiens par demi-journée, des remises de convocation systématiques, c'est impossible tout ça. 300 demandeurs d'emploi, des visites entreprises à assurer, tout ça, ça n'est plus possible. Mélanger deux métiers pour lesquels les prérequis demandés sont complètement à l'opposé, ça n'est pas possible. Il y a plein de choses comme ça, ça n'est plus possible. On pète un câble, des taux d'absentéisme, on n'a pas une chaise pour s'asseoir le matin, on est obligé de faire des chaises tournantes avec des blousons, ne pas désengager les PO la veille pour avoir sa place le lendemain, ça n'est pas possible.
Le langage de vérité, c'est qu'aujourd'hui les collègues craquent. Il y a eu un suicide sur les lieux de travail, 5 tentatives de suicide, sans compter ceux qu'on nous cache. C'est ça la réalité. Les dépressions, les antidépresseurs, les agressions, tout ça c'est trop.
Tous ensemble,
des avions les plus incroyables de l'histoire de l'aéronautique, le MiG-25 soviétique en patrouille avec Jean-Loup Chrétien, et devant moi c'est direct. Alors là, l'accélération c'est quelque chose d'époustouflant. Oh, 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 incroyable, incroyable. C'est vraiment une fusée sur laquelle nous sommes assis. Un vaisseau spatial. On est à sans doute plus de Mach 2. Pour la première fois, j'ai le sentiment de quitter la Terre.
Incroyable, c'est Daniel Mermet, c'est la base, et j'y suis, Hulot, super-héros.
Flight number 2.
All right. C'est toute la logique aérodynamique, en vol horizontal, au cabre, les moteurs passent devant, dans la position d'un serpent prêt à l'attaque.
France Inter, 7h52. Bonjour Stéphane Guillon.
Bonjour. Notre invité ce matin, c'est Nicolas Hulot, l'homme qui parle à l'oreille de Sarko, d'après le Nouvel Observateur. Ça tombe bien, les deux hommes font la même taille. Pour se parler à l'oreille, c'est mieux. Hulot, pendant des années, il a sillonné la planète en avion, il a participé au Paris-Dakar. C'est hyper polluant, on traverse la brousse, à fond les ballons, on jette ses détritus, parfois on renverse un petit Kirikou qui a eu la mauvaise idée de traverser pour récupérer un autocollant. C'est une horreur. Il s'est éclaté, Nicolas Hulot. Récemment encore, on l'a vu sur TF1 faire de l'avion de chasse pour son émission Ushuaïa. Et maintenant, il dit « Stop, on arrête de polluer ». Hé, oh, hé, hé. Eh, faut pas déconner. Quand tu fais le mariole sur TF1 dans un avion de chasse, après, c'est délicat d'aller dire aux pauvres « Éteignez votre robinet quand vous vous brossez les dents ». Bah oui, ma couille. T'as brûlé en 5 minutes l'équivalent en gasoil d'un pavillon en 5 ans et tu veux que je ferme mon robinet? Non, c'est tout le problème. Hein. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Nicolas Hulot vient de réaliser un film intitulé « Le syndrome du Titanic ». Il paraît que ça fout un cafard monstrueux. T'as qu'une envie en sortant, te suicider. Ça tombe bien, le film est sponsorisé par France Télécom. Si ça se trouve, c'est une commande. Pourtant, en septembre dernier, Hulot avait déclaré à l'AFP « Il y a des entreprises avec lesquelles je refuse de travailler car elles sont d'un cynisme absolu ». Encore une contradiction. Cela dit, Nicolas est souvent embarrassé par ses sponsors EDF, Vinci, Noroto, Rhône-Poulenc, du nucléaire, de la chimie, des bagnoles. Il y a plus écologique comme produit. Pas facile d'être écolo.
il y a les paroles et puis après, il y a la pratique. Même avec ses propres cosmétiques, Nicolas, il est emmerdé. Son gel douche et son déodorant Ushuaïa ont été classés produits dangereux par Greenpeace. Entre écolo, ils sont chiens. Hein. Notamment un spray à base de limonène qui provoque des cancers chez le rat. Eh, on n'est pas con, eh ? Personne va aller parfumer un rat avec un déodorant Ushuaïa. Plus emmerdant, il y aurait aussi une substance dangereuse pour les femmes enceintes qui interfère sur le système hormonal. Du coup, ça bloque le développement du fœtus. Un enfant qui ne grandit pas, t'as beau lui expliquer que c'est parce que maman voulait sentir sous les bras, fruit de la passion du Brésil, d'Ushuaïa, il fait la gueule. Ne vous laissez pas culpabiliser par les éco-tartuffes. Quand Hulot déclare dans la presse que les gens qui font tomber leur iPhone par terre sont encore plus embêtés que si c'était leur bébé, relativisez ! C'est normal de préférer son iPhone à un bébé tout rabougri, tout chétif, parce que sa mère a utilisé un déodorant Ushuaïa. Allez, à demain !
À demain, Stéphane !
On se bat bien. Qu'en sera-t-il quand les ressources élémentaires viendront à manquer ? À quoi nous serviront nos frontières et nos murs ? Quand des millions d'êtres fuiront la nature en colère ?
Le 7 octobre dernier, on a eu peur. À la sortie du film de Nicolas Hulot, le syndrome du Titanic, on a eu peur. Les médias se sont posés des questions. Ils ont vu dans ce film un brûlot altermondialiste, un film anticapitaliste, un film radical. Vire-t-il à la radicalité anticapitaliste ? S'est angoissé le JDD. Et dans tous les médias, c'était la même question. Un film noir, intraitable, sur l'économie libérale et l'injustice érigée en système, disait le Nouvel Observateur. Dans Le Monde, on disait, quelles sont les solutions pour Nicolas Hulot ? Quelles sont les solutions ? L'abandon du culte du toujours plus, de l'obsession du quantitatif, de la création de besoins là où il n'y en a pas, de l'idéologie de la possession pour exister, du capitalisme comme modèle économique dominant et qui est devenu le problème. Oui, on a eu peur le 7 octobre dernier, mais rassurez-vous, Nicolas n'a pas changé. Rassurez-vous et rassurons d'abord les soutiens de Nicolas Hulot, les sponsors de Nicolas Hulot, à commencer par TF1, tout d'abord, qui chaque mois verse à Nicolas 30 000 euros de salaire pour 3 émissions par an. Mais pas seulement TF1, rassurons aussi EDF, L'Oréal, la SNCF, qui ont financé ce film magistral. Et rassurons aussi Saint-Gobain, Lafargue, Bouygues Télécom, Armateur de France, Apple, Décathlon, Tetra Pak, les autoroutes du sud de la France, Édouard Leclerc, Orange, VVF, les hôtels Ibis et toutes les autres marques qui financent la fondation Nicolas Hulot. Rassurez-vous, partenaire de Nicolas Hulot, en aucun cas vous n'êtes mis en cause dans le film. Pas un seul instant. L'horreur, c'est au Japon, c'est en Amérique, c'est au Nigeria, c'est ailleurs. En tout cas, pas de déchets nucléaires à la française dans ce film. Pas de problème avec les produits L'Oréal ou les produits Ushuaïa. Pas même TF1 qui vend des temps de cerveau disponibles à Coca-Cola. J'ai vu le film. Eh bien, je peux vous le dire, le mot capitalisme est prononcé, c'est vrai, mais une seule fois et accompagné de l'épithète sauvage. Capitalisme sauvage, car pour Nicolas, il y a un capitalisme qui n'est pas sauvage. Pour Nicolas, un autre capitalisme est possible, rassurez-vous. Et en cela, Nicolas est d'accord avec Nicolas. Les deux Nicolas sont sur la même ligne. Lui aussi, Nicolas, le Nicolas du discours de Toulon, est intraitable avec le capitalisme. Il faut aussi rassurer les amis de Nicolas Hulot, de Florent Pagny à Pascal Obispo, de Luc Besson à François Pinault. Rassurez-vous, vous qui avez signé son pacte écologique lors des présidentielles de 2007, des centaines de milliers de Français, 800 000 Français, ainsi que les politiques, les candidats qui se sont présentés à ces élections, à nos suffrages, 5 ont signé ce pacte. De Sarkozy à Royal, de Georges Buffet, de Marie-Georges Buffet à Bayrou, ils ont tous signé bien. Rassurez-vous, rassurez aussi les 345 députés et les 52 sénateurs qui ont signé ce pacte. N'ayez aucune inquiétude, Nicolas n'a pas changé. N'oublions pas qu'à lui tout seul, il représentait en 2007 toujours 10% d'intention de vote et que sa fondation compte 850 000 membres. Ça calme, ça refroidit. Alors, un critique, un journaliste, s'est posé une question. Et si Nicolas Hulot allait commencer à déranger ? C'est Hervé Kempf qui s'est posé cette question dans Le Monde. Eh bien non, Hervé Kempf, soyez sans inquiétude, Nicolas ne dérange rien ni personne. Et d'ailleurs, en cela, il plaît à son ami Yab. Yab, bien sûr, vous vous souvenez, Yab. Mais si, Rome, Yann Arthus Bertrand qui dit au sujet de son ami Hulot, « Ce qui me plaît, c'est qu'il n'attaque pas. Moi qui ai toujours voté pour les Verts, cette fois-ci je ne voterai pas pour eux, pour leur idéologie antilibérale, antinucléaire. Ils ont tout gâché. » Tout savoir sur Nicolas Hulot et surtout sur ce film que vous pouvez ne pas voir, c'est là-bas si j'y suis, jusqu'à 16h, Hulot, super-héros.
Comment se résigner ?
Écoutez-la !
Quand on voit que le superflu des uns est sans limite, alors que l'essentiel des autres n'est même pas satisfait.
Française et qui, selon mes indications, sont ceux qui trouvent que Nicolas Hulot n'est pas gentil, si j'ai bien compris. Et on est dans une poche de résistance, une véritable poche de résistance, et on va essayer d'en savoir plus. On va d'abord, la première question, c'est de savoir pourquoi vous trouvez que Nicolas Hulot n'est pas gentil. Parce que tout le monde le trouve gentil. Moi, je suis venu à vous ici, dans le TGV, et il est en couverture du magazine du TGV. Hein, et on voit que c'est un gars gentil qui se décarcasse, qui se démène pour nous faire comprendre que la fin du monde est proche, que tout est pourri et que tout est de notre faute, que nos enfants vont mourir et ceux qui ne mourront pas nous le reprocheront. Il est là pour nous dire ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez à dire contre ça, puisque vous êtes des opposants à Nicolas Hulot? Vous êtes des quatre Français, dont une Française, probablement, qui s'oppose à Nicolas Hulot. Alors, qui a le courage de prendre la parole?
Alors, c'est vrai que s'en prendre à Nicolas Hulot, ça paraît un peu iconoclaste. Nicolas Hulot, il est tellement sympathique, il est tellement gentil, que des gens qui peuvent lui en vouloir ou critiquer sa position ne peuvent être que d'affreux méchants, voilà, qui n'ont pas compris à tel point il est gentil, à quel point il veut nous aider à sauver cette planète. Alors nous, on a un regard évidemment critique sur ce Nicolas Hulot, parce que on critique pas Nicolas Hulot en tant que personne. On l'a
rencontré une fois.
C'est vrai que c'est un personnage sympa, on le rencontre comme un copain. Non, c'est Nicolas Hulot remis en perspective. Qui est-il? Quels intérêts il sert? En fait, c'est prendre du recul, remettre en perspective la position de Nicolas Hulot. Et c'est comme ça que nous attaquons, nous critiquons Nicolas Hulot. Alors pourquoi? Très simplement, je dirais qu'avant, dans une perspective traditionnelle d'écologie politique, d'écologie anti-productiviste, eh bien, les écologistes disaient, ben, ces grossetés multinationales sont un problème, elles portent un modèle de civilisation, un modèle économique qui est destructeur, qui est prédateur, autant pour l'environnement que pour la société. Donc, ces écologistes nous disaient, il y en a encore quelques-uns qui le disent, il faut s'opposer à ces sociétés, il faut les faire reculer. C'est un discours qui exige, voilà, une position de dissensus, c'est une position démocratique, mais qui est ferme sur la position de principe. Et puis, petit à petit, on a vu apparaître des nouveaux écologistes, dont des écologistes très médiatiques, comme Yab, comme Nicolas Hulot, qu'on dit, attendez.
Yab, ça veut dire Yann Arthus Bertrand, l'auteur de Home, que tout le monde a vu.
Et qui nous en dit, mais non, c'est pas très moderne, c'est une attitude un peu passéiste. Il faut pas s'opposer à McDonald's, à Auchan, à Leclerc, à toutes ces grandes sociétés multinationales. Il faut faire alliance avec elles, et grâce à ça, on va sauver la planète, grâce à, voilà, une perspective qui est celle du développement durable, qui masque de façon très transparente la perspective du capitalisme vert. Donc, ne nous opposons plus aux sociétés multinationales, faisons alliance avec elles pour essayer de verdir ces grosses entreprises. Et voilà, et c'est pour ça que nous critiquons Nicolas Hulot, non pas comme personne, mais comme représentant de superstructures économiques qui va verdir, qui va blanchir à travers son action.
Alors voilà, je suis sur le site youtube.com, à la page du film Home, disponible gratuitement sur Internet, et je lance la diffusion. Alors, ça commence par un ciel étoilé, l'espace, et puis un chiffre apparaît à l'écran. 88 000 collaborateurs du groupe PPR. Et puis, bing, les chiffres partent dans une myriade de petites étoiles qui, elles-mêmes, donnent naissance à des marques. Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Sergio Rossi, Stella McCartney, Alexander McQueen, Boucheron, Gucci Group, Conforama, Puma, Fnac, CFAO, Elos, La Redoute, One Stop Plus, Somewhere, Avenue, Redcast. C'est un ballet de marques. Et petit à petit, tous ces mots, toutes ces marques s'agglutinent, s'agglomèrent, s'assemblent, se donnent la main pour former à l'écran un mot. Ce mot, c'est Home.
Vous avez aimé Home, vous allez adorer le syndrome du Titanic. Vous avez peut-être reconnu, nous sommes dans cette cave avec ses résistants, ses maquisards derrière leurs cagoules, et qui ne sont autres que les journalistes du journal La Décroissance, qui ont inventé le concept d'éco-tartuffe. Pourquoi aller chercher ces gens-là, aller trouver ces gens-là, aller jusqu'à Lyon, en TGV? Eh bien, c'est que c'est pas facile de rencontrer des gens qui ont quelque chose à dire, à critiquer, des critiques sur Nicolas Hulot. Il faut bien le dire, Nicolas Hulot fait l'unanimité, Il est la conscience écologique de la France. C'est une des personnalités les plus populaires de notre pays. Et personne n'ose véritablement s'y frotter quand quelqu'un, je le disais tout à l'heure, a une telle popularité. Et certainement pas notre classe politique, ni nos leaders politiques, qui, au contraire, essayent, bien sûr, en toute logique et en toute logique de marketing électoral, de s'approcher de notre héros. Alors, vous le baptisez Éco-Tartuffe. C'est vous qui avez inventé ce concept d'Éco-Tartuffe.
Pourquoi Éco-Tartuffe ? Parce que c'est vrai que c'est un peu paradoxal de voir des personnes qui ont mené grand train, ont été des représentants de la classe dirigeante, qui ont commis un peu tous les excès qui sont permis dans cette société de consommation. On pense par exemple à Yannatus Bertrand, qui a été pendant 10 ans participant au photographe officiel du Paris-Dakar, qui aujourd'hui eh bien, se met à faire la leçon écolo à l'ensemble des Français. Donc, évidemment, on ne veut pas rester dans des déterminismes. On souhaite que tout le monde évolue, y compris quand on a commis de tels excès. Mais le problème, c'est que ces gens souvent continuent à mener grand train, tout en prêchant la révolution du brossage de dents.
C'est quoi la révolution du brossage de dents ?
Là, c'est penser qu'on pourra transformer la société à travers des actes individuels qui ont leur importance. Bien évidemment, les changements de comportement des individus sont très importants, mais nous ne pouvons pas nous affranchir d'une réflexion qui est une réflexion plus vaste, qui est une réflexion politique, démocratique, sur les choix de société. Donc, on ne pourra pas transformer complètement la société uniquement à travers des comportements individuels, bien évidemment.
Et Nicolas Hulot fait partie des Éco-Tartuffes.
Nicolas Hulot, bien sûr. Un petit clip.
Je suis en train de perdre des auditeurs, là. Les auditeurs s'en vont, là. Allons-y, pour ceux qui restent, il y en restera peut-être quelques-uns à la fin.
On a vu Nicolas Hulot sur TF1 faire de l'avion de chasse. Et comme le disait Stéphane Guillon, en 5 minutes, il a consommé et mis autant de gaz carbonique qu'un Français moyen, toute sa famille, pendant 5 ans dans sa
vie. Il évoque tout le temps ses contradictions, il évoque le salaire faramineux que lui verse chaque mois TF1, il dit oui, je suis un garçon plein de contradictions, mon film est, non pas sponsorisé, c'est du mécénat, hein. Ne confondez pas, n'allez pas confondre, parce que mécène c'est les Médicis, hein. Mécène c'est les Médicis, c'est-à-dire ceux qui soutiennent les arts et la civilisation, donc nuance. Et il le dit ça, hein, il se cache pas de tout ça, donc il vit des contradictions comme nous tous et comme vous.
Bien sûr, on est tous dans des contradictions évidemment, notamment par rapport à la problématique écologique.
Je suis sûr qu'ici, si je cherche qu'il y a des financements cultes. Ah, faudrait chercher.
Ça va être dur à trouver.
Il faut l'instance d'une perspective plus large et comprendre la rhétorique que nous sert Nicolas Hulot, qui est très souvent une rhétorique de la soumission, qui nous dit, voilà, aujourd'hui, il ne faut plus faire dissensus, il ne faut plus s'inscrire comme contre-pouvoir, aujourd'hui, il faut faire alliance avec ces grandes entreprises. Et à côté de ça, il va extrémiser les gens qui, comme nous, eh bien, voulons bâtir des contre-pouvoirs indépendants qui vont avoir une attitude véritablement démocratique. Il va dire, voilà, il faut changer le système de l'intérieur, mais en disant ça, il dupe ses contemporains. Pourquoi ? Parce que quand il pense de l'intérieur, il pense pas à l'intérieur de la démocratie. Il pense à l'intérieur des firmes multinationales. Et voilà, et il va renvoyer ceux qui sont dans une véritable position de contre-pouvoir, dans le purisme, dans l'extrémisme, tout le discours voilà, qu'on nous resserre à longueur de journée.
Le syndrome du Titanic, un film en salle. Demain, un livre qui porte le même titre.
France Inter.
C'est une critique radicale. Comment est-ce qu'on peut le dire du capitalisme?
Moi, je ne le vois pas forcément comme ça. Curieusement, certains l'entendent comme ça.
6 octobre 2009.
C'est la situation dans laquelle on est, le contexte qui est en train de se radicaliser. Parce que les crises se sont combinées. Elles se nourrissent les unes les autres. La crise écologique aggrave la crise sociale, creuse des inégalités. La crise économique, la crise financière, tout ça est venu de se confondre et probablement mettre au grand jour qu'on a une crise quasiment systémique. Alors, faut pas s'en effrayer. Le modèle dans lequel on a été a eu ses vertus. Tout n'est pas acheté.
Nicolas Hulot dit, certes, il y a peut-être des choses à revoir dans le capitalisme, mais dans le capitalisme, tout n'est pas mauvais. Et sûrement, dans ce qu'il considère comme pas tout mauvais, il y a les 30 000 euros que lui verse TF1 tous les mois. Donc, il a une position très nuancée sur le capitalisme. C'est-à-dire, d'un côté, il va piller le discours de la décroissance, le discours de l'antiproductivisme, Par exemple, il reprend complètement tout le discours sur les limites, qui est essentiel, de dire ben, l'homme, pour s'épanouir, comme personne et comme société, a un besoin impératif voilà, d'intégrer cette notion de limite.
Chacun peut comprendre qu'à partir du moment où on n'est pas dans un monde qui s'étend au fur et à mesure de notre puissance et de la multiplication de nos besoins, il va falloir se fixer des limites.
C'est pas entièrement nouveau dans l'histoire des idées, et même de la politique. L'idée qu'il faut se limiter, c'est pas entièrement nouveau.
Rien de nouveau, je dirais, c'est aussi vieux que l'homme. Les philosophes grecs n'avaient de cesse d'appeler l'homme à la mesure. Pour les Grecs, le péché majeur était l'hubris, la démesure. Donc il va reprendre ce discours, mais par contre, il va écarter bien soigneusement tout ce qui est discours réellement anticapitaliste. Pourquoi ? Évidemment, parce que ça dérange fondamentalement sa structuration économique, la structuration économique de son business. Ça, il ne peut pas le dire. S'il veut garder ses sponsors, s'il veut garder Bouygues Télécom, TF1, Areva, eh bien, il ne peut pas s'engager sur une véritable critique du capitalisme.
That change will begin with you.
Je croyais à l'abondance. Et pour finir, je découvre la rareté. Je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Le modèle économique dominant n'est plus la solution, mais bien le problème. Je suis un enfant aussi, moi, de cette société de consommation. Je dois avancer pas à pas vers plus de cohérence. Jusqu'où suis-je prêt vraiment à aller dans le choix ? Dans le renoncement.
Donc ce film dit simplement, malheureusement, les phénomènes que l'on combat vont plus vite que notre réaction.
France Inter.
Et que ce ne sont pas des menaces parmi d'autres, mais que c'est la grande affaire.
6 octobre 2009.
Eh bien, il faut avoir une réponse proportionnée à la complexité et à la gravité de la situation.
Vous le dites très simplement, mais ça reste, et je maintiens le mot, une lecture radicale de l'état de la planète aujourd'hui.
Mais si on fait un tour des médias, ce que les médias disent et ont dit déjà sur le film de Nicolas Hulot, le syndrome du Titanic, la critique est unanime à le soutenir et assez inquiète. Beaucoup d'auteurs, de rédacteurs sont inquiets parce qu'il y a quelque chose de radical là-dedans. Hein. D'abord, il montre un certain pessimisme dans ce film, alarmant. Et puis, il devient un peu rouge. Hein. La critique du capitalisme qu'on vient d'évoquer, ça rappelle tout à fait le discours d'un autre Nicolas Hulot à Toulon, qui a été très très sévère lui aussi. Qui d'entre vous a regardé un peu ce qui se dit dans la presse?
Dans la presse, non, mais on a eu Une vérité qui dérange d'Al Gore, qui est un film assez extraordinaire, extrêmement pessimiste, très informatif. Ça date quand même d'il y a 3 ans. Il y a eu une critique dithyrambique dans la presse. Ça n'a absolument entraîné aucun mouvement d'idées. On peut penser simplement que Nicolas Hulot et Yann Arthus-Bertrand n'ont fait que copier assez platement un film qui était déjà bouleversant sur l'histoire de l'humanité, sur ce qui nous attendait. Donc ils n'ajoutent rien. Par contre, ce qu'il retranche, c'est que Al Gore a commencé ses discussions avec les sénateurs aux États-Unis à la fin des années 70 sur ces problèmes-là. C'est un peu éteint, c'est un peu délié entre-temps, mais il revient maintenant, surtout après qu'il ait perdu à la présidentielle, alors que Nicolas Hulot n'a tout simplement rien à faire valoir. Donc effectivement, il fait des belles images, il reprend un thème qui est porté depuis 30 ou 40 ans maintenant par ce qu'on appelle l'écologie politique, mais il n'ajoute rien. La seule chose qu'il ajoute, c'est que TF1 s'empare d'un créneau qui permet de capturer, on va dire, une espèce de potentialité chez les écologistes en présentant quelqu'un qui présente bien et puis qui fait à nouveau des belles images sur le sujet.
Oui, mais alors comment... Pardon. Ah, mais c'est oui, au fait, oui, c'est ça, voilà. Il y a quand même... ouais. C'est courageux de se dénoncer. Voilà un qui enlève son passe-montagne, il enlève sa cagoule parce qu'il a vu le film Thomas Waring. Alors, comment c'est le film ?
Alors, le film, effectivement, c'est de très belles images. C'est une critique radicale, effectivement, de la société de consommation. Il y a des contrastes très forts entre la richesse, le superflu des uns comparé à la misère des autres. Ça montre bien le malaise qui existe entre les pays du Nord, les pays du Sud. Et ça commence un peu à critiquer le capitalisme, mais c'est pas une critique. On sent bien qu'il est un peu coincé.
Que dit Nicolas Hulot, en somme, c'est un autre capitalisme est possible.
Voilà, c'est ce qui m'a frappé, c'est cette phrase dans le film. Seul l'excès est toxique. Et là, on reste vraiment dans le superficiel, c'est-à-dire que ce serait seulement les excès du capitalisme qui seraient toxiques et non pas le capitalisme en tant que tel.
Qu'en sera-t-il quand les ressources élémentaires viendront à manquer? À quoi nous serviront nos frontières et nos murs quand des millions d'êtres fuiront la nature en colère? J'aimerais tellement...
Beau, hein? Oh là là!
Tellement...
C'est beau. C'est beau. Si vous aimez l'esthétique humanitaire, vous avez la misère esthétisée, vous allez être heureux d'aller voir le syndrome du Titanic. Et ils ont été heureux, les critiques du Masque et la Plume, dimanche soir sur France Inter.
Et on termine avec le syndrome du Titanic, que j'ai quand même inscrit, puisque c'est sorti en salle. C'est le documentaire de l'ex-aventurier d'Ushuaïa, devenu le gourou de l'environnement. J'ai nommé évidemment Nicolas Hulot, film signé avec Jean-Albert Lièvre. Et son Titanic, c'est évidemment une métaphore. L'humanité, selon Hulot, ressemble aux passagers insouciants du paquebot qui n'ont pas vu le fatal iceberg. Si on ne change pas notre mode de vie, on est assuré de couler. Donc de Hong Kong à New York, il montre aussi bien la misère du monde que ces files d'Américains qui attendent d'acquérir le dernier iPhone. Eric, dans le Figaro, il a dit que c'était « Oui, découvre la pollution ». Tu maintiens ?
Oui, oui. Ça...
Oui.
Non, ça fait aussi penser, vous vous souvenez ? Quand on était au lycée, il y avait des professeurs qui nous emmenaient à des séances de connaissance du monde, des documentaires très très
emmerdants.
Moi, j'ai
pas eu ça. T'étais où ?
À Cahors, à l'époque. Et là, c'est Nicolas Hulot, Terre de Contraste. Hein, et vous écrivez Contraste comme vous voulez. Hein. Parce que c'est quand même un film. C'est comme quand on aime bien un prof de gym, comme Nicolas Hulot, le type qui vous a emmené faire du rafting, qui vous a envoyé en parapente, qui vous a fait faire des cascades, découvrir des îles perdues. Et puis on l'invite chez soi en vacances, pensant qu'on va bien s'amuser. Et on découvre un raseur redoutable, qui a des idées sur tout, qui parle comme BHL lisant son bloc-notes d'un ton sentencieux. Et pour enfiler des banalités, mais ridicules, avec... On n'est pas écologiste.
Il y a des vérités devient... quand même.
Il y a des vérités.
Il n'y a pas que des banalités.
Ce sont des images qu'on a vues partout. Ça n'apporte strictement rien. Il y a un côté assez faux cul aussi, parce que on ne voit comme méchants pollueurs que les Américains et les Japonais. Les Français sont pratiquement évacués de la chose. C'est quand même d'une très très grande bêtise. Moi, j'aimais bien Nicolas Hulot quand il faisait de la plongée, mais il faut lui mettre un tuba dans la bouche et qu'il se taise. Voilà, c'est...
Michel.
Oui, c'est un film d'abord difficile à expliquer. Enfin, c'est un peu les carences de Monsieur Hulot, parce que... Non, parce que il y a un contraste entre les images qui devraient nous être terrifiantes, qui devraient nous montrer des enfants affamés, une nature complètement détruite, etc. Alors que ces images splendides, alors on est contre le progrès, contre le progrès accéléré, mais on nous montre des gratte-ciel absolument sublimes qui sont évidemment l'aboutissement de ce progrès. Donc il y a une vision du monde qui est luxueuse par certains côtés, et puis un commentaire apocalyptique, angoissé, etc., qui ne correspond pas du tout aux images. On n'est pas chez Chris Marker, il n'y a pas de dialectique. Hein. Bon, on comprend pas les images. Par exemple, il nous montre des femmes africaines au sein nu qui se baladent dans un supermarché et qui mettent des yaourts ou des produits dans leur caddie. Mais je vois pas en quoi c'est regrettable que les Noirs, pour une fois, puissent se nourrir. Donc je vois pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il est contre la société de consommation,
surtout
en Afrique? Donc c'est totalement incompréhensible. Moi, je n'ai pas compris ce film. Effectivement, s'il avait voulu faire un film honnête, il n'aurait pas eu du tout de succès. Je ne sais pas si le film marcherait bien, mais en tout cas, c'est sûr que s'il nous avait montré les effets. Alors le film de Al Gore en disait 10 fois plus. Une vérité qui dérange. C'était un vrai film sur l'écologie, un vrai document passionnant, une plaidoirie. Tandis que dans ce film, c'est le grand défaut de l'écologie, c'est-à-dire qu'ils éliminent complètement l'économique et le politique. C'est-à-dire que on c'est toujours très vague. On est en train de détruire le monde, mais on ne dit pas le rôle des multinationales, on ne dit pas le rôle des grandes compagnies qui payent des gens à 1 $ par jour, qui les exploitent, etc., en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Asie, etc. Rien. Ça reste comme ça dans l'idée des bons sentiments.
Daniel.
Non, mais sur son Titanic, là, c'est la misère de première classe. Hein. Bon, faire un film pour dire que notre pauvre planète, vraiment, elle n'est pas bien, on ne peut pas être contre. C'est certain, notre pauvre planète, elle n'est pas bien. américains. Mais tout à coup, voir des SDF américains sous leur carton et balancer « Parlez-moi d'amour » version jazzy pour accompagner ça, il y a un moment où non, c'est pas possible. C'est pas possible. Faire de l'esthétique chic sur un sujet pareil, ça ne sert à rien. C'est vraiment vain. Et c'est limite scandaleux. Moi, vraiment, ça m'a mise en colère.
Mais c'est pas limite, Xavier. C'est abject. C'est un film profondément abject. Ah oui, non, moi, je suis désolé. Je trouve ça scandaleux. La première phrase du film, c'est « Je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu ». Il n'est pas né cinéaste non plus. Ça, faut qu'on le rassure immédiatement, parce que c'est quand même une catastrophe. En plus, l'esthétisme de la laideur, ça a déjà été fait il y a 2 ans. Ça s'appelait « Notre pain quotidien » et c'était entrement plus intéressant et plus fort. Là, il se prend le mur, mais de tout. C'est vrai que le commentaire est absolument débile, sentencieux, auto-satisfait. Il donne dans l'allitération rêve de pouvoir, rêve de conquête, rêve de pacotille. Peut-on prospérer sans croître? Allez, 2 heures et vous me rendrez les copies à la sortie. Pauvre type, il ne donne la parole à personne. Il y a 3 minutes bout à bout de pauvres interventions, mais vraiment super coupées, super réduites, parce qu'il ne faut pas effectivement bousculer la poésie de Monsieur Hulot, qui n'a aucun intérêt. Il n'y a pas une donnée chiffrée. Il n'y a rien. Il n'y a pas une statistique. Il n'y a pas quelque chose de contré. Ça n'a aucun intérêt. Et il y a des amalgames de montage. Je suis désolé. Il commence à un moment. La lumière, c'est le savoir. On voit un jeune Africain qui essaye de travailler et de lire sous la lueur d'un lampadaire en pleine nuit. On passe aux télénovelas pour bien nous montrer que de l'électricité, on a fait de la vulgarité, de la propagande, du sous-spectacle. Ensuite, on a les jeux vidéo des Japonais, parce qu'effectivement, l'Europe n'est absolument pas citée. Ce sont les Chinois, les Hongkongais, les Japonais et les Américains, les méchants. Total, les industries pétrochimiques, rien du tout, zéro nada, c'est les sponsors du film. Apple, malheureusement, pas. Donc, hop, on dénonce le iPhone. C'est quand même extraordinaire. Et on termine par les talibans, avec au milieu un extrait qui est diffusé sur le net d'un type qui a effectivement annoncé qu'il allait faire une tuerie dans son lycée. Tout ça en 2 minutes. C'est scandaleux, ce genre d'amalgame. On ne le pardonnerait pas à un jeune cinéaste, à un premier film, surtout pas à quelqu'un qui a fait 20 ans de télévision chez TF1, quoi. C'est vraiment abject. Moi, je suis désolé, mais je... Et la presse, en plus, lui sert la soupe. Il y a très peu de mauvais papiers.
Depuis 15 jours, on n'a pas eu de papiers sur le film. C'était que des interviews.
Non, il y a des papiers.
Il y a eu des papiers critiques qui ne sont pas si mauvais, alors que franchement, il y a des amalgames qui sont honteux à l'intérieur de ça et qui servent une démonstration super biaisée. Et super malhonnête.
Eh bien, c'est le syndrome du Titanic, très joliment, effectivement, rebaptisé les carences de Monsieur Hulot, et c'est par Michel, et c'est signé Nicolas Hulot.
Il y a eu le progrès, ce fameux progrès. Indéniable. Comme beaucoup, je l'ai pris longtemps pour un processus irréversible, dans les mains duquel on pouvait s'abandonner. On a pu construire des routes en plein désert. On a su rapprocher des hommes. Nous observe standardisés, quasi désintégrés. Je nous regarde balloter entre le virtuel et le réel que l'on n'arrive même plus à distinguer. Comment se résigner quand on voit que le superflu des uns est sans limite alors que l'essentiel des autres n'est même pas satisfait? On ne doit rien admettre de tout cela, car c'est tout simplement inadmissible. Si à la fin on peut vivre, souffrir, ici et ailleurs, parfois sans le moindre amour. Un enfant peut mourir là-bas, d'une maladie dont on a le médicament ici. Peut-on prospérer sans croître? Une fois seulement, peut-on anticiper, sortir du culte du toujours plus, et nous fixer des limites dans tout? Car seul l'excès est toxique.
Les carences de Monsieur Hulot, ce sera le titre du deuxième volet demain. Il y aura un deuxième volet, on peut dire, mais qu'est-ce que vous vous acharnez? Bien sûr, on pourrait laisser tomber, voilà, les carences de Monsieur Hulot, sauf la popularité, sauf que, voilà, c'est un des personnages les plus populaires en France. Encore une fois, nous non plus, nous n'avons absolument rien contre Nicolas Hulot, mais on veut essayer de critiquer, de discuter le message indispensable qu'il nous apporte. Merci. L'entretien était avec Sophie Divry, Vincent Chenette, Thomas Waring et Bruno Clémentin, qu'on retrouvera demain. Merci aux confrères du Masque et la Plume, Michel Simon, Daniel Eman, Eric Nouhoff et Xavier Le Herpeur. À trouver dans vos kiosques le mensuel La Décroissance. Et puis, si vous voulez vous intéresser à l'écologie politique, eh bien, lisez André Gorce, par exemple André Gorce, un penseur pour le 21e siècle, sous la direction de Christian Fourel, paru chez La Découverte en 2009. Voilà, merci à tous. Et puis il y a l'hebdomadaire Bakchich qui consacre sa une demain à Nicolas Hulot à ne pas manquer. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, où nous attendons vos messages, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, réécoute et messages attendus. Nicolas Lapeyre et Edwin Caron étaient à la technique aujourd'hui. Coyen Guyenne et Raphaël Moutère ont réalisé cette émission modeste et géniale. Assistés d'Agnès Lebot et Catherine Pinto, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Et concernant Pôle emploi, c'était un reportage d'Antoine Chao. Le numéro du répondeur de là-bas si j'y suis, vous le saviez déjà, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Qu'est-ce que vous répondriez à une petite voix qui vous dirait
« Allez, pour une fois, tu peux bien oublier quelques factures dans ta déclaration de TVA, juste quelques-unes. Ça fait un peu plus de trésorerie. C'est toujours ça de gagner, non ?»
Je lui dirais non, ça s'appelle de la fraude. Et on a tous à y perdre. Mon entreprise, qui peut être lourdement sanctionnée, mes salariés et leur emploi risquent d'être fragilisés. Et puis c'est toute la société qui en subit les conséquences.
C'est dans l'intérêt de tous que les pouvoirs publics se mobilisent encore davantage pour lutter contre la fraude. Parce qu'agir contre la fraude, c'est agir pour plus de justice.
Ceci est un message du ministère du Budget, des Comptes Publics et du réseau URSSAF.
Priorité santé mutualiste. Marc, adhérent d'une mutuelle de la Mutualité française.
Depuis mon accident cardiaque, je dois suivre un régime. Ma mutuelle m'a conseillé d'appeler Priorité santé mutualiste au 3935. Ils m'ont donné des rendez-vous réguliers avec un diététicien, bien sûr en lien avec mon médecin. Ça m'aide vraiment.
Avec Priorité Santé Mutualiste, les mutuelles de la Mutualité française accompagnent leurs adhérents pour leurs questions de santé. Appelez le 3935. Code d'un appel local depuis un poste fixe. Liste des mutuelles participantes sur prioritésantémutualiste.fr.
Il y a au moins deux bonnes raisons de soutenir la Ligue contre le cancer. Premier financeur de la recherche contre le cancer, la Ligue permet aux chercheurs de trouver et d'améliorer les traitements d'aujourd'hui et de demain. De plus, dans votre département, la Ligue aide les familles touchées par le cancer. Elle leur apporte un soutien financier, psychologique ou matériel. Face au cancer, on est plus fort ensemble. Vous aussi, agissez et faites un don à la Ligue contre le cancer.
On se retrouve demain à 15h pour la basse, j'y suis, les 16h45 sur Inter. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Boin. Salut.
Des ressortissants afghans sont bien en instance de rapatriement vers leur pays. 12 d'entre eux viennent en effet de saisir d'urgence la Cour européenne des droits de l'homme. Ils doivent être placés à court terme sur des vols au départ de la France, confirme la CEDH qui n'a pas encore fait connaître sa décision. Une information qui confirme donc les dires des associations de défense des droits de l'homme. La Cour européenne a déjà demandé dans le passé aux autorités françaises de sursoir à ce type de renvoi. La France n'a jamais outrepassé alors une telle injonction. L'Afghanistan, où il y aura bien un second tour aux élections présidentielles. Ce sera le 7 novembre. La commission électorale a estimé que c'était nécessaire après avoir acté l'existence de fraude. Le dernier résultat officiel crédite le président sortant Hamid Karzai d'un tout petit peu moins des 50% des voix, 49,67. Il a accepté le principe de ce second tour, ce dont Londres puis Washington le félicitent. C'est un précédent important pour la nouvelle démocratie en Afghanistan, vient de dire le président américain Barack Obama. La France participe bien aux négociations de Vienne sur le dossier iranien. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères l'a confirmé tout à l'heure. L'Iran avait fait savoir ce matin qu'il ne souhaitait pas que notre pays y participe. Mais c'est une réunion d'experts. Nous ne voulons pas nous disperser avec des commentaires qui viendraient interférer avec les travaux de la réunion, a expliqué Bernard Valero. Dans le procès Clearstream, l'heure est au réquisitoire. Le parquet de Paris a demandé tout à l'heure la condamnation de Florian Bourges. C'est lui qui a sorti les documents de l'entreprise Clearstream, où il faisait un stage pour les remettre à Denis Robert, le journaliste, et à Imad Laoud, l'informaticien. On connaîtra la peine requise dans la soirée. Le procureur, en revanche, a demandé la relaxe pour Denis Robert, qui n'a fait que son métier, son devoir d'informer, a-t-il dit. Nos collectivités territoriales traversent une crise de croissance. On a laissé se créer un écheveau de complexité qu'il est très difficile de dénouer, a plaidé Nicolas Sarkozy pour défendre sa réforme des collectivités territoriales. Le chef de l'État a confirmé qu'à terme, 3000 conseillers territoriaux remplaceront les 6000 élus actuels, conseillers généraux et régionaux. La réforme sera examinée dès la mi-décembre par les députés à l'Assemblée nationale. Les syndicats de France Télécom sont satisfaits. La direction va bien suspendre les réorganisations prévues dans le groupe et ce jusqu'à la fin de l'année. C'est un point positif pour la CFDT. Une première mesure saluée par la CGT qui dit tout de même qu'elle doit s'accompagner de beaucoup d'autres, notamment dans le domaine de la gestion individuelle de l'emploi. Les députés socialistes vont demander la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les sondages commandés et payés par l'Élysée. On a eu des informations intéressantes sur ce que cela coûtait aux contribuables. On veut aller plus loin, se justifie Jean-Marc Ayrault, leur chef de file.
Service public. Isabelle Giordano.
Demain, mercredi, mais pourquoi les banques françaises sont-elles si chères? Elles sont parmi les plus chères d'Europe. Avec 60 millions de consommateurs, Service Public a choisi de faire le point à nouveau sur les frais bancaires avec une interrogation. Les banques sont-elles désormais dans l'illégalité? On en parle tous ensemble avec vos questions et vos réactions qui sont toujours les bienvenues sur franceinter.com.
Service Public, pour mieux décrypter tous les pièges de la conso, du lundi au vendredi à 10h. France Inter présente Luz Casal, La Passionne, en concert les 10 et 11 novembre au Théâtre du Châtelet. Luz Casal, en partenariat avec France 3, à retrouver dans le programme musical de France Inter.
France Inter, la différence.
Il est 16h04 sur Inter, c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, vers 16h30, je recevrai une jeune et très talentueuse pianiste, Racha Arodaki. Et je vous propose, pour commencer, une jeune et très talentueuse violoniste, Marina Chiche, qui a gravé pas mal d'enregistrements et qui sera au Théâtre Impérial de Compiègne. C'est un très très bel endroit. Et ce sera le 22 après-demain pour un concert avec l'Orchestre de Picardie, dirigé par Pascal Véraud. Au programme, il y aura Nicolas Bacri, le compositeur d'aujourd'hui. Et déjà très reconnu, le troisième concerto de Camille Saint-Saëns et puis la superbe et très juvénile symphonie en ut majeur de Georges Bizet. Donc au Théâtre Impérial de Compiègne, c'est jeudi à 20h45. Si vous êtes dans la région, ce sera certainement très très passionnant. Et il y a des tarifs réduits à partir de 8 euros. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec Marina Chiche, marseillaise d'origine, passionnée de football. C'est étonnant pour une jeune femme, mais enfin bon, c'est sûr. Et encore plus de musique, heureusement. Et elle m'avait dit, mais comment il faut faire pour, d'après toi, pour jouer le début de la cavalcade, le final de la troisième sonate pour violon et piano de Brahms. Moi, j'avais répondu une seule chose, il faut jouer à fond. Et je crois qu'elle était assez d'accord avec moi, on va en avoir la preuve.